VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Avec vous, Henri Francisque, plus tôt, 13h à Nouakchott, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. Au Tchad, les autorités sévissent contre les orpailleurs récalcitrants dans le Tibesti. L'armée tchadienne a bombardé hier matin la localité de Kouribougoudi dans le Tibesti, dans l'extrême nord du pays, où une opération militaire est en cours depuis fin août pour nettoyer la zone, selon N'Djamena. Nani Talani nous en dit plus.
Selon une source sécuritaire à N'Djamena, deux hélicoptères ont bombardé Kouribougoudi où des orpailleurs refusent d'évacuer les lieux malgré l'injonction du gouvernement. Le bombardement n'a visé que des civils. Il y a des victimes civiles innocentes, a déclaré un parlementaire de la région sous couvert de l'anonymat. Un orpailleur de la zone évoque quatre blessés qui sont en train d'être acheminés vers la Libye pour y être soignés. Le porte-parole de l'armée a déclaré ne pas être informé. Fin août, le Tchad avait lancé une opération militaire dans le Tibesti pour officiellement nettoyer la zone des milliers d'orpailleurs venus du Soudan et du Niger voisin, ainsi que d'autres régions du Tchad, créant des tensions parfois meurtrières. Cette région du Tchad est présumée être riche en métaux précieux. On y trouve aussi plusieurs groupes rebelles tchadiens.
Au Nigeria, un nouveau directeur, Youssouf Magaji Bichi, a été désigné jeudi soir à la tête de la DSS, l'agence de renseignement intérieur, dont le précédent chef, Lawal Moussa Daoura, avait été limogé en août à la suite de la prise de contrôle illégale du Parlement par les forces de sécurité. Le nouveau patron de la DSS est un ancien agent des services de renseignement. Lawal Moussa Daoura, un allié clé du président Muhammadu Buhari, avait été limogé après avoir ordonné ce que le gouvernement a qualifié de prise de contrôle non autorisée du Parlement. Une référence aux événements du 7 août où des hommes armés cagoulés de la police et de la DSS avaient bloqué pendant plusieurs heures l'accès au Parlement à Abuja. Un incident qualifié par le vice-président Yemi Osinbajo à l'époque de violation grossière de l'ordre constitutionnel. Le blocage avait eu lieu alors que le président du Sénat, Bukola Saraki, et le chef de l'État, Muhammadu Buhari, étaient engagés dans un bras de fer politique à 6 mois de la prochaine élection présidentielle. M. Saraki a quitté début août le parti au pouvoir, l'APC, pour rejoindre le principal parti d'opposition, le PDP, dans l'intention d'être candidat à la présidentielle de 2019 contre Muhammadu Buhari, qui veut briguer un second mandat. Au Mali, l'élection législative prévue initialement le 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second est repoussée de mois. Les nouvelles dates fixées par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, premier tour des législatives le 25 novembre 2018, deuxième tour le 16 décembre. La date limite pour le dépôt des candidatures, 11 octobre 2018. Plus de détails avec Kassim Traoré, le correspondant de VOA Afrique à Bamako.
Les premières dates communiquées pour les législatives de 2018 étaient intenables à cause de la grève illimitée des magistrats. C'est pour cela que le ministre a initié cette rencontre. Mohamed Ag Erlaf, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation.
Les élections doivent se tenir avant le 31 décembre pour permettre à tous les candidats de bénéficier d'un certificat de nationalité surtout et d'un casier judiciaire en espérant que la grève des magistrats sera levée pour donner aux citoyens les casiers judiciaires.
Le collège électoral sera convoqué pour le 14 septembre. Le 11 octobre est la date de clôture des dépôts de candidatures. La campagne sera ouverte le 2 novembre et close le 23 du même mois. Le premier tour se tiendra le 25 novembre et le second tour est prévu pour le 16 décembre. Certains partis politiques sont d'accord avec ce chronogramme.
Je crois que c'est ça les éléments essentiels. Pour tout le reste, il s'agit de dérouler des éléments du chronogramme.
Alors si on fait comprendre qu'il y a d'autres moyens hormis la grève des magistrats, alors ils vont les mettre à notre disposition. On va voir ce que cela aussi va donner.
Ne disposant pas de liste communale, le ministre Ag Erlaf a fait savoir que les régions nouvellement créées ne sont pas concernées par ce chronogramme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication, Tiémoko Touré, a démenti aujourd'hui avoir supprimé une aide à la presse. Information ayant provoqué la colère des patrons de presse qui avaient menacé de ne pas sortir de journaux lundi. Il n'y a pas eu de suppression. Les entreprises éligibles vont recevoir leurs subventions comme prévu, a souligné le ministre Tiémoko Touré, joint par l'AFP au téléphone. La veille, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire avait annoncé une journée presse morte pour protester contre la décision de ne plus accorder aux 30 entreprises de presse l'aide à l'impression de 800 millions de francs CFA dont elles bénéficiaient depuis 3 ans. Et toujours concernant les médias en Afrique, au Niger, la télévision Labari a repris ses émissions jeudi après-midi après 46 jours de fermeture. Elle faisait partie de 7 radios-télévisions privées fermées en juillet par le fisc qui leur réclamait des arriérés d'impôts. Les explications d'Ali Idrissa, promoteur du groupe de presse Labari, au micro de Timothée Donangmaï.
Le déblocage est intervenu quand nous avions écrit un courrier à la Direction générale des impôts pour leur dire que nous souhaitions qu'il y ait un traitement équitable. C'est-à-dire que Labari puisse aussi bénéficier des mêmes circonstances que les autres médias. Certains dont la fermeture n'a duré que quelques heures, d'autres quelques jours. Nous, on est parti jusqu'à 46 jours. Effectivement, la Direction générale des impôts a accédé à notre requête en acceptant que nous puissions être dans la situation de pouvoir commencer un premier versement et prendre des engagements mensuels de paiement, mais tout en se disant que nous sommes dans un contentieux fiscal qui prendra son bout de temps et qu'au finish, nous serions amenés à savoir exactement qu'est-ce que nous devions payer.
Ali Idrissa, promoteur du groupe de presse Labari, joint à Niamey au Niger par Timothée Donangmaï. En Mauritanie, plusieurs militants de la cause anti-esclavagiste vont à nouveau intégrer le Parlement. Dans un pays où la question de l'esclavage et de ses séquelles divise toujours la société, malgré les efforts que les autorités mauritaniennes affirment déployer pour y remédier. Alors que le second tour des législatives est prévu samedi, le président de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, Biram Oulda Beïda a décroché un siège à l'Assemblée nationale lors du premier tour le 1er septembre, bien qu'il soit en prison depuis plus d'un mois. Et une autre dirigeante de l'IRA, Koumba Dadakan, qui a dénoncé la Mauritanie comme étant l'un des derniers pays négriers sur notre planète, rejoindra également le Parlement. Un des militants de la cause anti-esclavagiste, Boubacar Messaoud, président de SOS Esclavage en Mauritanie, séjourne actuellement aux États-Unis pour rencontrer ses partenaires et des organisations des droits humains. Abdourahmane Dia lui a demandé si la communauté internationale s'intéresse vraiment à l'esclavage en Mauritanie.
Il est très clair pour nous, en tout cas, que si la communauté internationale ne s'y intéressait pas, tous les gouvernements mauritaniens qui se sont succédés n'auraient jamais accepté de faire les concessions qui ne sont encore que très modestes.
Vous dites que les concessions du gouvernement mauritanien sont modestes, mais le gouvernement dit que l'esclavage est aboli. Et quelle est un peu la situation?
Oui, le gouvernement nie que l'esclavage existe. Le gouvernement soutient et défend partout qu'il n'y a que des séquelles, alors que nous présentons périodiquement des victimes d'esclavage que nous assistons au niveau des tribunaux contre leurs maîtres, les gens qui les exploitaient, réclamant le retour de leurs enfants ou de leurs mères ou de leurs descendants qui sont restés encore chez les maîtres dans la campagne, qui dure depuis que l'abolition a été déclarée en 1981. Et je me demande comment on peut déclarer en 1981 que l'esclavage est aboli sur toute l'étendue du territoire et en même temps dire qu'il n'existe pas.
Donc dans les textes, l'esclavage n'existe plus, mais dans la pratique, c'est autre chose.
Mais dans la pratique, c'est autre chose. Certes, l'esclavage n'est pas comme il était il y a 100 ans ou il y a 50 ans avant l'indépendance, mais il ne peut pas continuer à disparaître, à s'effacer au rythme du temps, tout simplement, parce que c'est très long. Actuellement, il en reste des esclaves. Nous continuons à déplorer qu'il n'y ait pas des mesures radicales permettant à tout un chacun de savoir que l'esclavage est totalement proscrit.
Quand vous parlez de mesures radicales, vous pensez à des peines sévères contre les auteurs?
Je parle des peines sévères d'abord qu'il faut exécuter aussi. Je parle des sommes qu'on devrait exiger pour la réparation. Donc, je parle des réparations que les maîtres d'esclaves devraient obliger de réparer parce que nous avons des esclaves qui n'ont absolument rien, qui sont totalement démunis. Surtout quand ce sont des esclaves qui étaient des bergers, qui étaient dans la nature avec des animaux et leurs maîtres. Ils avaient juste un endroit pour dormir. Et quand ils viennent dans la ville, ils s'installent dans les bidonvilles et ils n'ont pratiquement pas grand-chose.
Boubacar Messaoud, président de SOS Esclavage en Mauritanie. Et pour terminer, ici aux États-Unis, l'ouragan Florence continue d'affecter les États de Caroline du Nord et de Caroline du Sud. 300 000 foyers sont déjà privés d'électricité dans l'état de Caroline du Nord. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.